Je suis certain que tu connais le besoin de chaque personne ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui a tout créé et qui sait toutes choses, Seigneur. Donc ce matin, Père, tu nous parleras individuellement, collectivement, Seigneur. Et Seigneur, tu nous donneras tes pensées, Seigneur, par la bouche de ton serviteur. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, le rassurer, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, le conduire, Seigneur. Seigneur, donne-lui les paroles qu'il faut, Seigneur. Et surtout, Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, nous avons soif d'entendre tes pensées, Seigneur. Soif d'entendre tes voix, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ces temps, Seigneur, où nous avons désespérément besoin de paroles qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, chacun de nous, de conseils qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as enrôlés, Seigneur, dans ta famille, dans ton équipe, Seigneur. Seigneur, tu veux que nous soyons des serviteurs, des lumières, Seigneur, des éclaireurs, Seigneur. Seigneur, je crois que tu as misé sur chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas là pour être là, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour faire comme d'habitude. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour jouer un rôle, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour grandir, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour être remplis, Seigneur, de toi, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Seigneur, c'est nous, Seigneur, qui allons changer ce monde, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas peur, Seigneur, de dire cela, Seigneur. C'est le peuple de Dieu qui va changer ce monde, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous équiper, Seigneur, nous nourrir de ta parole, Seigneur, pour être capable, Seigneur, de porter le flambeau, Seigneur, que tu nous as donné. Louange et gloire à toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient tout rouillés ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. À toi la place, mon Seigneur.
Bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Bonjour. Qui c'est qui a dit bonjour? Voilà, vous êtes les bienvenus ce matin. Je ne sais trop par quel bout commencer. Il y en a qui vont saisir de l'esprit, vont me dire de commencer par le commencement. Je tâcherai de les écouter, ça semble être une voix sage. Et ce matin, donc, je voudrais vous emmener avec moi à la rencontre d'un personnage singulier, un personnage important. Son ministère nous est rapporté par le livre des Juges. Pour ceux qui l'ont étudié, ce livre, mais également aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils ont l'occasion, n'est-ce pas, de faire comme les Juifs, les chrétiens de Bérée, de vérifier si ce que je dis est exact. Le livre des Juges, je vais en faire une petite présentation avant de nous lancer dans notre partage. Il y a trois séquences qui ponctue ce livre de manière régulière. La première séquence fait état de la désobéissance du peuple. Et on trouve une phrase qui se répète, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Première séquence. La seconde séquence fait mention du châtiment. Le châtiment consistait d'une manière générale en une oppression exercée par l'une des peuplades environnantes. Et dans le cas qui nous intéresse, ça va être la peuplade de Madian. La troisième séquence, quant à elle, traite de l'intervention d'un Dieu attentif aux cris de ses enfants et qui choisit de les sortir de leur misère en leur donnant un juge, en leur suscitant un juge. En général, une période de paix, de repos, si vous préférez, s'installait donc durant toute la mandature du juge. Et c'est ce qui va se passer avec celui qui nous intéresse ce matin, le juge qui nous intéresse ce matin, en l'occurrence, Gédéon. Et donc, il nous est dit, « Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc, autant Madian était qu'à faire la fête et puis Israël avant Gédéon était arrivé, autant il était qu'à mettre Israël tête en bas, eh bien, autant il restait au garde à vous pendant tout le restant de la vie Gédéon. Il ne relève, Madian ne leva plus la tête. En résumé de cette petite présentation du livre des juges, nous pouvons rappeler que le juge, c'est la réponse du Dieu fidèle au cri de son peuple qu'il châtie parce qu'il a péché, mais qu'il n'abandonne jamais, contrairement à ce que ce dernier peut croire. Dieu est toujours disponible pour celui, pour celle qui se repent. Le Dieu qui châtie est un Dieu qui aime et qui aspire à ce que son peuple soigne sa relation avec lui. Pour l'heure, occupons-nous de Gédéon, il a une affaire d'hôtel à régler. À l'espace de 24 heures, il faudra en gérer trois. Bon, nous allons voir comment il va s'y prendre. On se repente au livre des juges, chapitre 6, pour faire la lecture, une longue lecture pour les endurants. Juges 6, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Moi, je dis que tu es tête en bas, c'est pas tête en bas, c'est le même que tu es. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous voyons la deuxième séquence qui vient se joindre déjà à la première. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du faumont au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prophètes que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici « Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térubin et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consume la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne, si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Jusque-là. Je vous l'avais dit, Gédéon avait une affaire d'autel à régler. Nous avons passé 3 en revue. Le premier, c'est celui qu'il a construit et auquel il a donné le nom de l'Éternel paix. Et cet autel, la construction de cet autel, c'est le résultat, c'est la conclusion de la rencontre de Gédéon avec l'Éternel. Il vient de passer, on peut le dire comme ça, une journée extraordinaire. Et j'ai peur que le terme ne soit faible. On va faire un peu les comptes. Pas moins de 5 à 7 faits méritent d'être soulignés. Évidemment, que des bonnes choses. Des choses qu'il ne faut pas forcément raconter à tout le monde, sous peine de se faire traiter de fou. Vous voyez Gédéon allant dire, bon, l'Éternel m'a apparu, il est venu me voir, je ne sais pas, mais bon, ce ne sont pas forcément des choses qui s'acceptent aussi facilement. Mais on peut tirer des nouvelles rassurantes, des nouvelles optimistes qui sont annoncées, et qui prennent le contre-pied d'une situation qui est loin d'être brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Premièrement, le choix dont Gédéon fait l'objet. Il est le dernier de son humble et petite famille, et il est la peur au ventre. Il se dépêche de battre le froment pour le mettre à l'abri avant que Madian ne vienne lui mettre tête en bas comme nous. Premièrement, le choix. Deuxièmement, le titre qui lui est attribué. Quel titre reçoit-il de la part de l'ange de l'Éternel ? Vaillant héros. Bien qu'étant surpris, sa réponse le laisse comprendre, cela ne l'a pas laissé indifférent et l'a sans doute replacé dans une juste estime de lui-même. Parce que depuis le temps que Madian les oppressait, je suppose que Gédéon avait dû cogiter pas mal dans sa tête. Il y a aussi, troisièmement, le mandat qui lui est assigné. C'est quoi le mandat ? Eh bien, c'est qu'il va chasser l'oppresseur qui est là depuis des années, qui leur fait voir tant de misère. C'est lui qui a été choisi pour faire cela. Voici son mandat. Il y a aussi l'accusé réception de son offrande. Lorsque Gédéon se rend compte qu'il a affaire à l'Éternel, il va préparer une offrande. Et l'offrande est agréée, l'offrande est acceptée. Et pour couronner le tout, l'ange de l'Éternel ajoute une dernière couche. Et là, Gédéon ressuscite littéralement. Eh bien oui, je ne sais pas si je ne suis pas encore en dessous de la réalité. La crainte de mourir qu'il avait envahi parce qu'il avait vu l'ange de l'Éternel, eh bien cette crainte-là va détaler à toute vitesse pour laisser la place à de l'assurance, de la sérénité, de la paix, bref, la vie. Et après s'être bien pensé pour vérifier qu'il n'avait pas besoin de se réveiller, emporté par un élan de respect et d'adoration, il dresse un autel. Mes amis, c'est un geste éminemment important qui vient conclure, n'est-ce pas, cette rencontre. Il dresse un autel. L'autel déclare son adhésion au projet de Dieu. L'autel est comme un phare. Notre frère Jean-François vient de le dire, c'est sur nous que le monde compte. C'est nous que le Seigneur Jésus-Christ a chargé d'éclairer le monde. L'autel est comme un phare ici par rapport au culte que nous adressons à Dieu. L'autel indique une orientation. Il fait la lumière sur une allégeance. Il informe sur une identité. Il éclaire sur une appartenance. Quand tu as dressé l'autel, tu dis à qui tu appartiens. Tu dis de quel côté tu es. Tu annonces les couleurs lorsque tu dresses l'autel. Si les choses devaient s'arrêter là, tout va être belle. Il a fait une rencontre extraordinaire avec Dieu. Il a dressé un autel. J'ai presque envie de dire qu'il a gagné sa journée. Eh bien, ce n'est pas fini. Dieu n'en a pas fini avec Gédéon, avec nous non plus. Hein. Tant qu'il y a de la vie, n'est-ce pas, il y a de l'espoir. Et Gédéon est ainsi remis sur la sellette. Il faut dire qu'il n'a pas eu le temps de descendre, ou alors s'il en est descendu, il n'a pas eu le temps d'aller bien loin. L'Éternel l'a rattrapé. Hé, mon vaillant héros, tu as encore deux petites courses à me faire. J'ai un hôtel à renverser et un autre à construire. Bel programme. Charmant programme. On était en plein redressement national et il fallait quelque chose d'envergure. Il fallait quelque chose qui frappe le regard. Il fallait quelque chose qui frappe les consciences. Et pour de l'envergure, ce n'est pas ce qui manque. Renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père, prendre son jeune taureau, plus un taureau de 7 ans, sacrifier le taureau de son père avec le bois prélevé sur l'autel renversé. Mais c'est... Il y a le bagage dans ça. Hein. Deux sources de cancan. L'une avec son propre père et l'autre avec les gens de la ville qui ont d'ailleurs demandé sa tête. Comment y a, monsieur, quand j'étais l'hôtel, nous? Non, il faut que monsieur mort. Pour qui ça, j'ai dit au cap encore. En plus, c'est celui de son père. On pourra, en d'autres occasions, revenir sur cette désobéissance. On va juste en dire quelques mots, mais cela pourrait faire l'objet d'un message. Donc voilà qui détonne, si vous voulez, avec la construction du premier hôtel qui s'est fait dans des conditions, on va dire, agréable. Et ce premier hôtel, il met bien en évidence le côté positif, le côté agréable de la relation, on va dire, avec Dieu. Le côté agréable, en tout cas, de la mission. Mais Dieu n'y va pas par quatre chemins. Dieu n'y va pas par quatre chemins. Il va droit au but. Et il faut déceler deux enseignements majeur dans cette démarche. Le premier enseignement, c'est la démarcation avec les traditions enseignées par son père. Ce n'est pas tout ce que notre père dit qui est forcément la vérité. Et quand ce que notre père dit s'éloigne de la vérité, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et Gédéon a dû faire ce choix. Dieu lui a indiqué qu'il fallait le faire. Parce qu'il s'agissait non seulement de son père, il s'agissait encore du peuple. C'est en même temps que c'est la démarcation d'avec les traditions enseignées par son père, c'est la démarcation d'avec la croyance populaire. Et Gédéon devient le prophète qui annonce de façon plutôt singulière le commandement divin. Dieu commence la renaissance de son peuple par la renaissance spirituelle. Les deux actes, l'un de destruction, l'autre de construction, eh bien, sont deux actes fondateurs et essentiels pour la mission. Ne pas insister sur ces deux aspects de la relation, mettre un terme à un culte inapproprié et adopter un culte agréable à Dieu, relève de l'ignorance, de la folie, de l'inconscience. Il est impossible de réussir la mission sans ces deux préalables-là, et cela dans l'ordre. Il est même dangereux de s'y risquer. Le culte à Baal, que nous pouvons assimiler à tout ce qui déplaît à l'Éternel, ne pouvait cohabiter avec le culte à l'Éternel. Il fallait que l'un des deux cesse. Et Dieu a choisi de mettre un terme au culte à Baal. La délivrance de l'oppresseur sans ce préalable-là, sans cette destruction de l'autel, sans ce renouveau, cette démarche vers un renouveau spirituel, la délivrance de l'oppresseur n'aurait pas rendu service aux enfants d'Israël. Si vous voulez vous en rendre compte, lisez le livre des Juges, vous vous rendez compte que dès lors qu'ils avaient été délivrés, il restait quelque temps à pratiquer le culte de l'Éternel pour tout de suite retomber après dans la pratique du culte païen. Et pour cause, donc, le culte de Baal a toujours concurrencé le culte de l'Éternel. Me fait concurrence, voilà. Le culte de Baal a toujours concurrencé le culte de l'Éternel, et il est même à l'origine de la décadence du culte à l'Éternel. Par conséquent, chaque fois que le peuple s'est détourné de Dieu, c'est parce qu'il s'est laissé piéger par l'exercice d'un faux culte. Et en général, on retrouve celui de Baal, qui avait apparemment une prééminence. Donc, Dieu lui dit, il te faut renverser l'autel de Baal. J'essaie en tout cas d'imaginer ce que cela pouvait représenter comme fardeau pour Gédéon. Je pense premièrement, il doit aller prendre le jeune taureau de son père, mais tu vas pas prendre le jeune taureau de ton père comme ça. Je veux dire, quand ton père se rendra compte de la disparition du taureau, ça peut chauffer. Je me dis, mais bon. En plus, il a dit le jeune taureau, donc c'est pas n'importe quel taureau. Je suppose qu'il devait être précieux aux yeux de son père. D'autre part, il prend le bois de l'autel de Baal pour faire le sacrifice. Mais c'est presque injurieux pour... les gens qui voient leur engin de culte, leur objet de culte ainsi profané, ben, ils voient rouge. Et donc, d'ailleurs, Gédéon a choisi un moment propice pour faire son, pour commettre son acte. Il a choisi d'aller de le faire pendant la nuit, parce que ça se fait pas de jour, ce genre de choses. Hein. Ça c'est bien pour serrer, pour faire ça. Et pas même quitter mon ça vous fait ça. Voici le contexte du deuxième et du troisième autel. On va dire qu'il détonne clairement avec le premier message que nous découvrons lors de la construction du premier autel. Dieu n'y va pas par quatre chemins et il teste donc Gédéon. Et je vous le dis, ceci est la porte d'entrée pour la réussite de sa mission. Parce que s'il ne fait pas cela, je vous dis, ce n'est pas la peine d'aller délivrer Israël. Il va retomber dans son même travers. Or, c'est de ce travers-là que Dieu veut le sortir. Dieu veut le remettre sur pied, bon, sur tous les plans, mais surtout, essentiellement sur le plan spirituel. L'économie, le social sont accrochés au spirituel. Et quand le spirituel va bien, les restants bien. C'est ce que Dieu a dit. Hein. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, ben je lui épargnerai les bobos, etc., etc., etc. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Donc chaque fois que l'on déroge à cet ordre, on se place dans une situation désobligeante à l'égard de Dieu. Et bien évidemment, ceci est dommageable pour la relation. Alors, je ne voudrais pas vous quitter. Oui, je vais vous quitter dans quelques instants. Ça commence à me démanger ici derrière. Je ne voudrais pas vous quitter sans avoir noté en passant que Dieu n'utilise pas le premier autel érigé par Gédéon. Dieu n'utilise pas le premier autel construit par Gédéon. Mais qu'est-ce qu'il a, il avait, il n'y avait rien de mal dedans. On se pose la question. Bon, d'aucuns pourraient peut-être faire intervenir une certaine notion géographique, peut-être que ça n'était pas au bon endroit, mais il n'en demeure pas moins que ceci, je pense que ceci avait une importance capitale. Dieu, c'est Dieu qui décide du lieu, de l'endroit, de la position, de la disposition de l'autel. L'autel que Gédéon a édifié, le premier autel qu'il a édifié, il l'a édifié sous le coup de l'émotion, sous le coup de la joie. D'ailleurs, le nom est tout évocateur. L'Éternel paix. Et quand vous cherchez dans la liste que je vous ai donnée, il n'y a que des choses, que des bonnes choses, que des choses heureuses, donc qui justifient. Mais quand nous avons, n'est-ce pas, été bénis par le Seigneur, nous disons Alléluia. Et quand nous sommes dans l'épreuve, nous nous arrêtons au A. Dieu n'a pas besoin de l'autel de Gédéon. Il apprécie, il agrée, il adhère, mais c'est la souveraineté de Dieu demeure quant à la pertinence de sa parole, quant à la pertinence de son conseil, quant à la pertinence de la voix, quant à la pertinence de la mission qu'il donne. La souveraineté de Dieu demeure sur le sujet. Et donc, c'est cet autel-là, c'est sur cet autel-là, d'ailleurs, quand les gens se lèvent, la relation qui est établie entre les deux autels, celui de Baal et celui de l'Éternel, frappe les yeux et dit quelque chose de clair. Dit que Dieu ne veut plus de ce culte. Ce culte est à bannir. Voici le culte qu'il agrée, voici le culte auquel il adhère. la souveraineté de Dieu quant à la pertinence, quant à l'évidence, quant à l'importance de sa parole. Tu es engagé dans la mission que Dieu t'a confiée. Tu es engagé dans l'exercice du culte préconisé par Paul dans sa lettre aux Romains. Cependant, je vais te proposer, avec l'aide du Saint-Esprit, de vérifier que tu n'as pas omis, oublié, négligé, refusé même peut-être de te séparer d'un geste, d'une parole, d'une idée, d'une conviction, d'une vision, d'une décision qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. On voudrait vérifier cela ensemble. Frères et sœurs, nous avons besoin, durant toute notre vie, d'apprendre, de retenir qu'il nous faut nous séparer de certaines choses pour adhérer à d'autres. Celle que Dieu, en tout cas, voudrait nous voir partager. C'est notre combat, c'est notre mission permanente. Et cette mission, nous ne la réussirons que si nous satisfaisons à ces préalables, nous séparer d'eux et adopter, nous séparer d'eux et adhérer, nous séparer d'eux et opter pour. Baissons la tête un instant, frères et sœurs. Seigneur, nous reconnaissons combien tu es bon. Ta bonté nous a atteints dans notre misère. Tellement ta compassion fut grande à notre égard. C'est toi qui nous as choisis et nous voulons honorer ce choix que tu as fait, Seigneur. Merci pour l'éclairage de ton Saint-Esprit sur nos vies, sur les relations que nous maintenons les uns avec les autres, sur la relation que nous maintenons avec toi. Merci de nous éclairer quant à la vigilance que nous devons porter pour que son état puisse t'honorer. Seigneur, nous voulons remplir cette mission de phare en restant obéissant à ta parole, en gardant les yeux fixés sur ces exemples que tu nous as tracés. Je veux te dire merci, Père, parce que sans toi, la réussite de cette mission reste hors de notre portée. Et nous voulons en tout cas compter sur ce Seigneur, sur ce Dieu souverain. Aide-nous, ouvre-nous les yeux, Seigneur, éclaire notre intelligence afin que nous puissions faire les bons choix pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.